Bonjour tout le monde et bienvenue à la tasse de café, le balado de LNH.com. Nicolas Duchamp au micro, je vous parle en ce 16 septembre. Alors que les choses sérieuses commencent sous peu dans la Ligue nationale, début des camps d'entraînement. À travers vraiment partout pour toutes les équipes à Montréal, ça commence demain mercredi avec les premiers essais physiques, donc on va voir les joueurs suer, certains les visiter la poubelle après les fameux tests VO2 max sur le vélo, donc on va parler de tout ça aujourd'hui à l'émission, on va revenir aussi sur ce qui s'est passé dans les derniers jours et je vais faire tout ça avec mes deux collègues Guillaume Lepage et Jean-François Chaumont. Salut Guillaume!
Salut Nick!
Hey, salut JF!
Bonjour monsieur!
Ça va bien, monsieur?
À jamais ça va aussi bien. Maintenant que mon son est corrigé, je vis le plus grand des bonheurs.
JF qui est toujours le moins bon au niveau informatique, même quand c'est pas de sa faute, là, ce cas-ci, on va te pardonner. Je pense pas que c'est de ta faute, mais bon, ton son qui fonctionnait pas ce matin. Ton été, JF, semble-t-il que tu as été visiter un coin de pays où on a plusieurs auditeurs, c'est-à-dire la Suisse et un peu de la France, là.
Détour du côté de la Suisse, principalement près du lac Le Mans, avec la petite famille et un taux de change absolument magnifique. le franc suisse n'était pas vraiment avantageux pour un pauvre Canadien, mais beau pays, beau voyage, copine, enfant, ma soeur, mon beau-frère, tout le monde, nous avons eu beaucoup de plaisir, disons. On s'est promené aussi à Zermatt. Lausanne, Genève, on a fait Vevey, une belle grosse tournée de la Suisse. C'était très, très, très agréable.
Est-ce qu'on t'a arrêté dans la rue pour te féliciter pour le balado?
Non, mais j'ai croisé un ancien Canadien, Cristobal Huet, du côté de Lausanne. Faire une petite histoire courte, je voulais revoir l'aréna à Lausanne puisque mon beau-frère y a joué il y a de cela quelques années. Mais c'était fermé, c'était le début du camp et j'ai croisé le relationniste de l'équipe qui est un Québécois. Donc, il a ouvert les portes et puis ensuite, petite rencontre avec Cristobal qui était de bonne humeur, qui travaille comme entraîneur des gardiens pour l'équipe de Lausanne. Donc, c'était bien le fun de revoir Cristobal, un gardien qui a mis... J'étais à Radio-Canada à l'époque quand lui était le numéro un du côté de Montréal.
Ah, ben oui, mais c'est un coin tellement, là, honnêtement, moi j'ai été impressionné quand j'ai visité. Coin sous-estimé, là, pour ceux qui ne connaissent pas ça, la Suisse, là, on salue tout le monde. Je sais qu'on a beaucoup, d'ailleurs, on a beaucoup d'écoute du côté de Lausanne, donc on salue tout le monde. Et Zermatt, la montagne, là, c'est magnifique. T'es-tu allé au Mont-Blanc aussi ou?
Oui, j'ai fait Chamonix aussi, okay. Puis ensuite on a fini du côté de Paris, donc une tournée, je dirais, très, très, très agréable. Deux voyages différents. Paris, la grande ville, la Suisse, les montagnes, le lac, les étendues, profiter des paysages. Mais les enfants ont eu beaucoup de plaisir dans les deux, autant du côté parisien que du côté suisse.
Bon, toi, Guillaume, t'en étais?
Ouais, un petit passage en France du côté de Nice. Après on est allé en Tunisie, un marché francophone, mais je pense pas que c'est très développé niveau
hockey.
mais très agréable, beaucoup de belles plages. Ensuite de ça, j'ai terminé ça en Italie, dans le sud de l'Italie. Encore des plages, du soleil et du bon vin, des bonnes pâtes. Donc, on est prêt à recommencer cette saison-là, bien reposé. On est fin prêt, là. Je pense qu'on a eu un petit avant-goût cette fin de semaine, là, passé deux journées au Centre Bell. Donc, ça lance les choses en grand.
C'est reparti.
Les deux, Nick, on a opté pour un décor différent de celui d'Edmonton.
C'est ça, vous aviez donné.
On voulait quand même y aller d'un petit changement. On a passé beaucoup de journées du côté de l'Alberta pour la finale. Sunrise aussi, donc on voulait voir quelque chose d'un petit peu différent.
Ouais, non, c'est légèrement différent. Et puis, peut-être que vous allez retourner dans ce coin-là cet hiver, on verra, hein, avec les Olympiques, tout ça. On verra ce qui va en être à ce moment-là, parce que oui, on va avoir une grosse année cette année au niveau du hockey, non seulement dans la Ligue nationale, mais les Olympiques, retour des joueurs. J'ai hâte, honnêtement, j'ai vraiment hâte d'aller de voir ça. On va en parler toute la saison. Chaque mercredi, comme d'habitude, on va parler de tout ça pour vous, chers auditeurs, sur la tasse de café. D'ailleurs, on a déjà deux podcasts qui ont été enregistrés, les deux derniers, avec Seb Deschambault et Hugues Marcel. On a parlé poolers, donc si vous êtes en train de préparer votre pool et que vous n'avez pas écouté nos épisodes, ben faites une recherche, la tasse de café LNH. Vous allez trouver ça. On en a pour à peu près 2h30 de contenu et peut-être même plus poolers pour vous aider. Donc, faites une recherche, vous allez trouver ça. Abonnez-vous, comme ça, vous êtes certain de ne rien manquer. Les gars, on a parlé d'Olympique. Il y a un sport qui est pas aux Olympiques d'hiver, c'est le golf, mais sport qui était populaire hier du côté de Montréal, un peu partout à travers la Ligue. Le golf, tournoi de golf des Canadiens qui lançait cette saison-là. Pas de slogan hein, cette année du côté du tricolore. On va y aller plus pour la prudence.
Ouais, pas de slogan. Écoute, je pense qu'on peut pas en inventer un aussi tous les ans. Il y a 2 ans, c'était le mot en paix qui était tabou. L'an dernier, on disait qu'on devait être dans le mix, dans la course en bon français. Cette saison, les mots-clés, je dirais, progression et constance. Mais aucune grande promesse. On reste prudent. Probablement que Kent Hughes, Jeff Gorton, Jeff Molson ont assez d'expérience pour comprendre qu'une progression ne se fait pas toujours d'un côté linéaire, qu'on peut parfois frapper un mur, même si sur papier, cette équipe-là est promoteuse. L'arrivée...
On dirait que j'entends Régis Lévesque, là. Le promoteur, puis...
Prometteurs. Écoute, je reviens d'un rendez-vous chez le médecin ce matin, donc j'ai un peu de fatigue dans mon corps. Puis si je me fie aussi à certains collègues qui regardent attentivement la colonne de poids des joueurs et qui s'excitent le poil des jambes quand un joueur a pris 14 livres pour dire qu'il va connaître une saison du tonnerre, je m'attends à connaître une grosse année au balado parce que moi aussi, j'ai eu quand même une prise de poids. Mon médecin a fait le saut aussi en voyant la balance. Je lui ai dit qu'il y avait une erreur probablement sur la balance. Donc, on va essayer de travailler.
Il faut savoir que Jeff aime bien commander une pizza en entrée au restaurant quand on est sur la route entre collègues. Donc, peut-être à surveiller au printemps prochain.
Ouais,
on va peut-être commander une salade en entrée.
Pour revenir à ce qu'on disait, c'est une saison qui s'annonce quand même prometteuse pour le CH avec l'ajout de Dobson, l'ajout de Zachary Bolduc, l'arrivée d'Ivan Demidov à temps plein dès le premier match de la saison. Mais il y a quand même des pertes. Il y a des pertes au niveau d'expérience. Là, Christian Dvorak, Yoel Armia, 2 joueurs clés pour l'infériorité numérique, David Savard également. Donc, c'est peut-être une des raisons pourquoi on se garde une certaine prudence chez les dirigeants du CH. Mais je crois honnêtement qu'il n'y avait rien à gagner non plus en promettant terre et monde, en disant « oui, c'est dans la poche, on va participer aux séries ». C'est normal de voir la direction se garder une petite réserve, mais ce n'était pas le même discours chez les joueurs. Nick Suzuki lui disait qu'on aura de grandes attentes, que cette équipe-là est construite pour vivre encore une fois les séries. Donc, c'est un discours un petit peu différent à l'intérieur du vestiaire.
Je pense que la direction aime quand même le rôle de, je vais le mettre entre guillemets, de négligé qu'elle avait par les années passées. Là. Tu sais, l'an dernier, c'était le mix, mais on n'a jamais défini ce que c'était le mix. Est-ce que c'était dans la course jusqu'à la date limite? Est-ce que c'était jusqu'à la fin de la saison? Finalement, on a participé aux séries, mais...
Disons que le mix n'était pas le même quand l'équipe était dernière au classement par rapport à quand elle a fait les
exact.
Séries. Aussi,
on a pu jouer avec le slogan, on a pu l'adapter selon les différentes situations. Puis je pense qu'à un certain moment dans la saison, on tentait de se distancer un peu de ce slogan-là. Donc, je pense qu'on ne veut pas placer la barre au sommet puis dire on va participer aux séries cette année. On aime quand même laisser une certaine latitude, puis pas mettre la pression sur les joueurs en partant en disant « faut faire les séries ». C'est probablement ce qu'ils pensent, mais devant les médias, on a été très prudents. Puis je pense que c'est bien comme ça, parce qu'on le sait à Montréal, là, hier, si les dirigeants étaient arrivés puis avaient dit « on est une équipe de séries », puis là, on vise de passer la première ronde, aller en deuxième ronde, faire un bout de chemin en séries, ben là... ce serait partout pendant la prochaine semaine, puis on rappellerait ces déclarations-là à l'équipe au mois de novembre, au mois de décembre, au mois de janvier, dans les moins bonnes séquences. Donc, c'est assez prudent comme ça de gérer la situation comme on l'a fait, puis je pense que on a encore le luxe de se permettre ça parce que c'est un jeune noyau, puis c'est vrai que c'est dur à prévoir la progression de ce groupe-là. Donc, je pense qu'on continue dans cette lignée-là, puis peut-être que l'an prochain, ben là, on n'aura pas le choix de passer à des attentes très plus claires, du moins, du côté des dirigeants.
C'est prudent, Guillaume, mais c'est aussi, je pense, teinté de lucidité. Là. Mm-hmm. Tu regardes la division Atlantique, ça reste une des très bonnes divisions de la Ligue nationale. Les Panthers, double champion de la Coupe Stanley, le Lightning de Tampa Bay, les Sénateurs d'Ottawa qui sont un petit peu dans le même bateau que le CH, c'est une équipe qui aspire à monter au classement. Il y a peut-être le point d'interrogation, les Maple Leafs, qui eux ont perdu Mitch Marner, mais ça reste quand même une équipe qui amasse 100 points et plus depuis bon nombre de saisons. T'as les Sabres qui un jour vont vouloir sortir des bas-fonds, les Red Wings, donc je peux comprendre qu'on se garde une certaine gêne par rapport à des prédictions pour la prochaine saison, mais sur papier, l'équipe et le noyau du Canadien, ça reste quand même très intéressant, surtout que c'est un noyau qui est très jeune. Ça, Jeff Molson l'a rappelé, le Canadien sera peut-être l'une des plus jeunes équipes, pas peut-être, sera assurément l'une des plus jeunes équipes et peut-être même la plus jeune la saison prochaine. Donc, avec jeunesse vient parfois aussi des séquences plus difficiles. Donc, faut se garder une certaine réserve. Je regardais le samedi soir, après un match des recrues, si tu te fiais aux partisans, tout le monde commençait déjà à graver le nom d'Ivan Demidov sur le trophée Calder, mais ça restait un match des recrues contre les espoirs des Jets de Winnipeg.
Puis à l'inverse, avec deux défaites en fin de semaine, ben là, la panique commençait à s'emparer. C'était fini. Donc,
oui, je voyais des commentaires.
Tous des busts.
Ce que je retiens, on a fait un petit article, un genre de bulletin de la fin de semaine, là, les espoirs qui ont tiré
le vraiment du jeu. C'était vraiment très bon, ça, Guillaume.
Oui, oui. Puis il y avait des commentaires sous l'article. Là. Moi, ce que je retiens, c'est les deux défaites et tout ça. Donc, il faut pas céder quand même à la panique. Là,
comment disait Carey Price? Relax, chill out.
Faudrait se calmer un peu. Juste pour ajouter au point de Jeff sur la jeunesse de l'équipe, puis peut-être l'équipe la plus jeune, ce que je trouve intéressant, c'est, oui, on est jeune, mais Nick Suzuki en est quand même à sa septième saison avec le grand club. Donc, il y a la jeunesse, mais cette jeunesse-là a de l'expérience. Mm-hmm. Donc, le Canadien, dans la façon dont il a géré cette reconstruction-là, ben on se retrouve avec des atouts. La jeunesse, on sait ce que ça peut amener. Là. C'est une équipe qui est dynamique, qui est rapide et tout ça. Puis de l'autre côté, ben on a l'expérience. On a participé aux séries l'an dernier. On a connu des saisons de misère et tout ça. Donc, peu importe la situation, je pense que ce groupe-là est quand même bien outillé là, pour les gérer. Puis on verra bien ce que cette saison
tu parles de jeunesse, mais Gorton et Hughes vont garder le même plan, la même vision quand ils ajoutent des morceaux au casse-tête. Oui, on parle de joueurs qui vont aider à court terme, Noah Dobson, Zachary Bolduc, mais tu regardes leur passeport, mais Noah Dobson a 25 ans, Zachary Bolduc en a 22, donc c'est du court terme et du long terme. On ne va pas chercher un ailier vieillissant de 35-36 ans pour une solution à très court terme. Il y a une vision qui reste pas nécessairement uniquement cette année. Le CH veut devenir une bonne équipe pour plusieurs années. C'est quand même une nuance importante.
Puis quand tu as une équipe jeune comme ça, la réalité, c'est que ça peut pas, je vais utiliser l'expression, ça peut partir en couille assez vite. Merci aussi. Mm-hmm. On le voyait l'année dernière, les séquences autant de succès que de défaites des Canadiens. Lorsqu'on en perdait une, on n'en perdait pas seulement une, c'était deux, trois de suite. Les blessures, on n'est pas habitué à faire face à ça. Donc, il y a plusieurs possibilités où l'équipe va juste, avec un si jeune noyau, va juste l'échapper. Ça va paraître sur une possibilité de participer aux séries. Donc, j'ai vraiment senti qu'hier, on évitait de sortir les lunettes roses là, du côté de l'organisation. Là.
Ben ouais, puis je reprends les mots de je crois que c'est Kent Hughes qui disait, on n'a pas encore assemblé une équipe parfaite. Puis c'est vrai, là. Il reste des points d'interrogation. Pendant tout le camp, un des gros sujets sera qui est le deuxième centre de cette équipe. Hier, la direction, Jeff Gorton et compagnie, nous disaient que Kirby Dach sera probablement en uniforme pour le premier match de la saison, le 8 octobre du côté de Toronto, c'est le plan. Mais en même temps, Gorton parlait d'une gestion quand même avec des étapes dans le cas de Kirby Dach. Donc, c'est un joueur qui revient d'une opération à un genou, une deuxième opération en très peu de temps dans le cas de Dach. Si ce n'est pas Dach, ce sera qui? Est-ce que ça pourrait être Alex Newhook? La théorie Zachary Bolduc au centre, je serais très, très surpris. Il n'a pas joué au centre depuis ses saisons avec les Remparts de Québec ou l'Océanique de Rimouski. Donc, ça remonte à un bail. Ouais, donc,
même avec les Remparts, son centre était Théo Rochette, là, qui est bien connu du côté de la Suisse. Donc, je pense pas que... Je pense que ça fait un petit bout là, qu'il a occupé ces fonctions-là. Il ne faudrait pas commencer à jouer avec lui, à jouer au yo-yo.
C'est un ailier, je pense. Là, il y a de la place aussi à l'aile. Puis l'infériorité numérique aussi. Les Canadiens, l'an dernier, ont réussi à terminer dans le top 10 en désavantage numérique. Même si on voit que sur papier, ça risque d'être très intéressant pour l'avantage numérique. Si tu cartonnes à 23-24% d'avantage numérique, mais que tu es à 72% d'infériorité numérique, tu n'es pas plus avancé. Donc, il y a trois pièces importantes à remplacer entre Vorak, Armia et Savard pour le jeu à 4 contre 5. Donc, ça aussi, ça risque d'être un enjeu pour le prochain camp.
On y va tout de suite pour le camp. On va se mettre à parler de tout ça dans ce qui commence. Bon, comme j'ai dit, ça s'amorce mercredi avec les tests physiques. Premier match qui va avoir lieu lundi prochain. Donc, on a quand même quelques journées pour apprendre à connaître les nouveaux visages. D'ailleurs, il y en a eu deux qui ont eu un bon choc culturel hier. Noah Dobson et Bolduc, disons-le. Comme tu écrivais, Guillaume, les tournois de golf de ces deux équipes-là sont un peu moins courus que celui du tricolore. Juste avant de se lancer sur le camp d'entraînement, je veux faire un petit retour sur le face-à-face des espoirs, les deux matchs. Si ça a prouvé une chose, c'est qu'Ivan Demidov avait plus d'affaires là. Hein, je pense que ça a été le point. Les attentes tout au long du camp à propos de Demidov, comment tu gères ça? C'était lui-même, c'était l'organisation?
Ben, clairement, on va gérer ça de façon assez serrée parce qu'on l'a vu du côté médiatique des choses. Au premier jour du camp des recrues, on voulait tous parler à Ivan Demidov. C'était la tête d'affiche de ce face-à-face-là, de cette fin de semaine-là. C'est lui qui était en gros sur les posters, qui vendait des billets et tout ça. Donc, on voulait lui parler au premier jour. Puis là, on nous a répondu du côté des Canadiens que Demidov ne parlerait pas avant samedi soir, c'est-à-dire après son match. Donc, on tente déjà un peu de le protéger là, du côté médiatique. On veut peut-être pas faire de jaloux dans le reste de l'équipe non plus, là, que Demidov soit le seul joueur duquel on parle pendant tout le camp. De son côté, à lui, je sais pas, c'est Jean-François qui était dans le scrum après le match. C'est un jeune, on a appris à le découvrir un peu à la fin de la saison dernière. Il a l'air à prendre les choses quand même assez légèrement.
Il est capable de se retrouver devant deux micros.
Il sourit.
Il est très, très, très souriant. Il a une personnalité attachante. Puis même, on essayait de lui parler. Est-ce qu'il trouve ça difficile de marcher à Montréal? Il a passé l'été du côté de Montréal puis de se faire reconnaître. Puis il disait avec un petit peu de timidité, mais c'est pas mal la même réalité du côté de Saint-Pétersbourg. Là, ça reste un jeune homme qui est dans marmite depuis plusieurs saisons. Il était vu comme un grand espoir pour le repêchage de 2024. On parlait de lui depuis longtemps. Mais s'il y a un avantage, Nick, c'est que contrairement à l'an dernier où il arrive en fin de saison, il reste deux matchs au calendrier, le CH se bat encore pour une place en série. Il n'y a pas le temps non plus de s'asseoir avec Martin Saint-Louis et d'apprendre tous les schémas de jeu. Là, Demidov, il a passé un été au complet. Il va avoir un camp d'entraînement derrière la cravate. Il y a eu peut-être une soixantaine de pratiques avec les vétérans de l'équipe au courant de l'été. Donc, connaît Nick Suzuki, connaît Juraj Slafkovský, connaît ses coéquipiers, est un petit peu mieux aussi à l'intérieur de sa nouvelle réalité montréalaise. Donc, autant sur le plan hockey que psychologique, Demidov, la transition devrait être beaucoup plus facile cette année. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre de lui? Le talent sort par les oreilles. Ça fait aucun doute. Là.
La seule chose que j'ai hâte de voir, c'est que, tu sais, à la longue, on l'a vu en fin de saison l'an dernier, on l'a vu en série aussi, dans les matchs des recrues, chaque fois qu'il embarquait sur la glace, tu sentais que le centre Bell était animé, il touche à la rondelle, les gens attendent qu'il fasse quelque chose de spectaculaire. Donc, ma seule inquiétude par rapport à ça, c'est: est-ce qu'à la longue, le jeune va s'en mettre beaucoup sur les épaules en se disant « OK, les gens s'attendent à ce que je fasse quelque chose. » En fin de match, samedi, le Canadien perdait par un but. On l'a envoyé, je pense qu'on l'a double-shifté là, pour utiliser l'expression anglaise. Donc, tu sais, il y a quand même beaucoup d'attentes, puis on le sait que c'est un joueur qui est capable de faire la différence, de prendre un match, puis de changer le cours d'un match. Mais à la longue, s'il s'en met trop sur les épaules, c'est peut-être dangereux aussi qu'il se mette à essayer de trop en faire, à trop forcer les choses, justement, pour en donner à cette foule-là, pour remplir les attentes qu'on a en lui. Donc, ça va être important pour le reste de l'équipe aussi de bien l'encadrer là-dessus. Martin Saint-Louis, je pense que il sait dans quoi le jeune homme s'embarque. Là. Je pense que ça va être un atout du côté des Canadiens pour justement lui faire comprendre que hey, t'es encore jeune, on sait que t'es talentueux, mais c'est pas à toi de prendre cette équipe-là sur tes épaules puis de l'amener en série. Donc, va juste falloir être prudent par rapport à ça parce que c'est certain que on le sent. Là. Il y a une effervescence à Montréal, il y a des attentes, puis ça va venir éventuellement avec de la pression. Si ça ne fonctionne pas comme on le souhaite dès le début ou tout ça, ça peut devenir peut-être étouffant, mais semble avoir la personnalité pour bien gérer ça.
Mais ils vont peut-être se servir aussi du modèle Lane Hudson. L'an dernier aussi, à pareille date, après le camp des recrues, on était déjà émerveillés par Lane Hudson. Puis lui aussi, c'en est un autre que quand il touchait à rondelle, tu pouvais entendre un grondement dans la foule, puis les partisans s'attendaient à le voir transporter à rondelle d'un bout à l'autre. Hudson a réussi à bien gérer ces attentes-là tout au long de l'année. Puis les deux jeunes hommes, autant un est américain, l'autre est russe, les deux sont hyper travaillants. Josh Anderson disait hier que Ivan Demidov, c'était souvent deux entraînements par jour pendant l'été, matin et soir, avec Adam Nicholas.
Contrairement à toi, JF.
Oui, contrairement à moi.
Moi aussi, là, soyons francs. Là.
S'il y a eu une. Si Demidov a ajouté des livres, lui, ce sont des livres de muscles, contrairement à celui qui parle derrière le micro en ce moment. Mais c'est ça, Demidov, Nick Suzuki disait aussi qu'il peut être le type de joueur qui, s'il y a un aspect de son jeu qu'il n'aime pas, bien, il va passer 60 minutes sur la glace à travailler sur cet aspect précis-là. Donc, ça reste un jeune étudiant de parenthèse du hockey. Donc, ça peut paraître déjà comme de bonnes nouvelles. Mais j'ai surtout hâte de voir son entourage au sein de son trio. Qui sera le joueur de centre? Jeff Gorton disait hier qu'un ailier peut être le moteur d'un trio. C'est vrai, mais ça reste un ailier de 19 ans. Faut quand même se rappeler qu'il est tout jeune au niveau de la Ligue nationale. Puis si jamais l'ailier gauche porte le numéro 92 puis qu'il s'appelle Patrick Laine, défensivement, ça se pourrait que ça soit parfois difficile pour ce trio-là. Voyons voir. Dès les premiers jours du camp, je suis curieux de regarder le trio de Demidov. Je ne serais pas surpris qu'on place peut-être un Zachary Bolduc, qui est quand même un joueur assez robuste, probablement meilleur à 5 contre 5 que Patrick Laine aussi. Pour aider un Demidov qui va jouer à l'aile droite.
Au-delà de Demidov, d'autres joueurs qui ont retenu votre attention durant le face-à-face des espoirs?
Ben, il y a Owen Beck par moment qui ressortait. Il y a Oliver Kapanen qui a eu de bons matchs. Florian Jacquet est un gros ailier au centre, peu importe, mais en fin de semaine, on l'a davantage vu du côté de l'aile. Quand même un bon sens du jeu dans le cas de Florian Jacquet. Puis Guillaume m'a souvent donné des coups de coude pour me parler de Protz du côté des défenseurs. C'en est un qui
Owen
qui
Protz. Frappe.
Donc, sinon, Philippe Méchard, ouais. Quelques bonnes présences. Jacob Fowler, dans l'ensemble, a bien joué, mais c'était deux fois des demi-matchs. Donc, ça fait une tournée
c'est
assez rapide.
Ouais, c'est pas le même... C'est pas le même rythme de travail un peu. Tu as peu de temps pour te prouver. Là.
Owen Protz, juste en ajouter un peu sur lui, ça va être un candidat pour Équipe Canada Junior au mois de décembre. Donc, ça va être à surveiller au courant de la saison. C'est un choix de quatrième tour. C'est pas le défenseur le plus spectaculaire, mais j'ai bien aimé la description qu'ils ont fait de lui sur Elite Prospect. On parle de lui comme d'un joueur qui a le monopole de la violence quand il met le pied sur la patinoire. Puis c'est de la violence, mais intelligente, je veux dire. Il va pincer des joueurs avec des bonnes mises en échec légales, mais je lui ai parlé après le match, là, il a une face d'enfant de 12 ans.
Ouais.
Il mesure 6 pieds 2 puis 200 quelques livres. Il frappe comme un bulldozer, puis lui, il dit, je sais que je suis pas le genre de défenseur qui va faire des montées en porte-pièce, qui va partir derrière son filet pour aller marquer. je sais exactement c'est quoi mon rôle, c'est de jouer défensivement. Puis il dit, si les étoiles s'alignent, c'est de traverser un adversaire. Là. C'est comme ça qu'il m'a dit ça, de run through mes adversaires. Puis là, je l'ai relancé en disant, les étoiles s'alignent souvent dans ton cas. Puis il dit, ouais, mais c'est mon identité, c'est ce que je fais de bien sur la patinoire. Donc lui, j'ai quand même beaucoup aimé ces deux sorties en fin de semaine. Puis dimanche, Scott Salmon, qui est un haut dirigeant là, de Hockey Canada, qui était sur la galerie de presse du Centre Bell. Donc ça indique peut-être un certain intérêt du côté de la formation canadienne.
Puis à la ligne bleue, Nick, il y a Adam Engstrom. Moi, chaque fois que je vois jouer Adam Engstrom, c'est un très beau patineur, joueur intelligent. Il y avait David Reinbacher qui est son partenaire. On le sait, Reinbacher, un haut choix repêchage, cinquième au total. Disons simplement que Reinbacher a besoin de millage. Il a besoin de jouer des matchs. C'était pas catastrophique en fin de semaine, loin de là. Mais Reinbacher, avec le Rocket de Laval, pour les premiers mois de la saison, vous pouvez pratiquement déjà encercler son nom. Sauf s'il y a plusieurs défenseurs qui se blessent au camp. Là. À mes yeux, Reinbacher a absolument besoin de jouer de grosses minutes et obtenir des responsabilités importantes avec le Rocket pour son développement personnel.
C'est un peu dommage qu'il n'est pas prêt parce qu'il y aurait un beau trou pour lui à la droite là, pour évoluer dans
Il y a un trou à droite, mais il y a quand même sur papier 7 défenseurs avec des contrats de la Ligue nationale donc, et des gauchers qui peuvent jouer à droite. Donc, la patience restera une clé pour David Reinbacher.
Bon, début du camp, cette année, quand même quelques ouvertures, justement, et quelques joueurs qui ont déjà joué. Ce n'est pas des recrues qui s'amènent avec aucune expérience, mais qui ont la possibilité d'aller chercher ces postes-là. En attaque, on a probablement une ouverture sur le quatrième trio au niveau du centre et probablement à l'aile aussi. Là. C'est les deux endroits où il y a des postes. Oliver Kapanen, Owen Beck, Joe Veleno, Joshua Roy, vous voyez les quatre comment dans leur rôle. Lequel a le plus de chances d'aller chercher ce poste-là, selon vous? Par exemple, on va commencer au centre du quatrième trio.
C'est une bonne question. Au centre du quatrième trio, écoute,
je pense
que
ça a un lien avec le deuxième trio aussi.
Ouais. Ouais.
C'est le jeu de domino qui va s'effectuer. Là. Si Dak remplit le deuxième centre, ben là, on peut descendre Newhook et Jake Evans. Si Dak n'est pas prêt, fait pas le travail, s'en va à l'aile, ben là, il peut avoir un jeu de chaise assez intéressant. Je pense que Joe Veleno, on est allé le chercher peut-être comme une petite sûreté de ce côté-là d'avoir un centre, quoique les mises au jeu, c'est pas nécessairement son pain et son beurre.
Non, mais c'est un gaucher. C'est rare, mais il n'y a pas de centre gaucher pratiquement chez le CH, à part Alex Newhook, qui est peut-être davantage un ailier.
Ouais, ben, tu sais, l'an dernier, je pense que le constat qu'on a fait après l'élimination du club, c'est qu'Alex Newhook n'était pas un joueur de centre capable de générer des choses offensivement. Fait que je pense que on peut rayer son nom peut-être du côté du deuxième centre. Dans un monde idéal, là, je ne dis pas que c'est ce qui va arriver, là, mais dans un monde idéal, Alex Newhook retournerait à l'aile, Kirby Dack ferait le travail, puis ensuite de ça, ben, on descend avec des joueurs qui ont quand même une belle expérience. Là, ça dépend.
C'est quoi aussi l'ingrédient que tu recherches? Samuel Blais est un joueur complètement différent d'Oliver Kapanen, mais si tu veux un joueur physique pour l'aile d'un quatrième trio, Samuel Blais a plus d'expérience qu'un Kapanen. C'est un gars aussi qui, l'an dernier, a joué une saison en entier du côté de la Ligue américaine. Donc, va vouloir cogner à la porte, revenir au niveau de la Ligue nationale de hockey. Il ne faut vraiment pas rayer son nom. Kapanen, je ne crois pas qu'il y a une urgence non plus à le voir dès le jour 1 du côté de la formation, mais Kapanen peut jouer au centre, peut jouer à l'aile, peut jouer en infériorité numérique. Il y a quand même plusieurs cordes à son arc. Veleno, c'est une acquisition de profondeur, mais là, on parle, tout ce beau monde est en santé aussi. C'est toujours un autre point d'interrogation. Un camp d'entraînement, c'est pas rare qu'on voit quelques joueurs qui se blessent, donc ça peut créer des ouvertures. Il ne faut peut-être pas oublier Florian Jacquay. Je crois qu'on va le regarder quand même attentivement au prochain camp. C'en est un autre. Puis Owen Beck aussi. Beck, c'est un autre qui, un peu comme Kapanen, peut remplir plusieurs missions, qui a connu une bonne saison recrue dans la Ligue américaine. Donc, ça reste qu'il y a des options. Il va y avoir quelques ouvertures, surtout à l'attaque. Moins du côté de la ligne.
Je suis curieux de voir Joshua Roy aussi.
Oui, j'ai oublié Joshua Roy.
Parce que pour lui, Bon, c'est pas le temps s'écoule, là. C'est pas une question de vie ou de mort cette année, là, mais j'ai l'impression que tu va jouer quand même son avenir avec les Canadiens cette saison. Puis de ce qu'on a lu, a connu un gros été d'entraînement. Il se dit plus en forme que jamais, plus en shape. Puis il a travaillé beaucoup dans le gymnase. Donc, est-ce que ça va aider son coup de patin? Est-ce que ça va lui permettre peut-être de gagner plus de batailles? Ben, on va le voir, je pense, à partir des matchs préparatoires, mais ça va être pour lui, là, c'est un gros camp. Il y a beaucoup de choses à prouver pour grimper peut-être dans la hiérarchie de l'équipe.
C'est à lui de venir voler un poste. L'an dernier, on croyait qu'il y avait une place à Montréal. Mm-hmm. Il y avait plus une place à perdre qu'à gagner. Il a sa place avec un camp ordinaire. Si Joshua Roy connaît un camp à l'image de l'hiver Kapanen l'an dernier, mais on peut inverser les rôles. Donc, il faut pas, Guillaume a un bon point, il faut aussi penser au 89.
Parce que je pense que Joshua Roy a peut-être un peu plus de potentiel offensif qu'Oliver Kapanen. À l'aile d'un troisième trio, ça peut t'amener une dimension intéressante si on voit que justement son été a porté fruit et qu'il est en mesure de s'imposer davantage que l'an dernier.
Sauf que dans la dynamique où on a un désavantage numérique à reconstruire, Joshua Roy se retrouve un peu... c'est pas sa force, là. C'est pas là qu'il va pouvoir le plus signaler versus un Kapanen, par exemple, qui lui, déjà, a laissé des bonnes notes, là, si je peux dire, a retenu des bonnes notes l'année dernière au point de vue jeu partout sur la patinoire.
Ouais, c'est vrai que côté défensif, c'est sûr, je ne placerai pas Joshua Roy en avant d'Oliver Kapanen, mais on lui a déjà confié des responsabilités défensives. Je me souviens au championnat mondial junior, il jouait en désavantage numérique, puis Stéphane Julien, son entraîneur à Sherbrooke, disait que c'était justement une facette qu'il lui avait confiée tout au long de la saison. Bon, professionnel, junior, c'est pas la même game, c'est différent, mais Joshua Roy a quand même ça dans son bagage. Est-ce que pourrait devenir un spécialiste défensif, je ne crois pas, mais il est capable de faire le travail. Mais je comprends ton point. C'est sûr que Kapanen part peut-être avec une longueur d'avance compte tenu justement des trous qu'il a comblés sur le désavantage numérique.
Est-ce que dans son cas, Roy, ce qu'il doit le plus faire au camp d'entraînement, c'est de prouver qu'il est capable d'être un joueur de troisième, quatrième trio? Le reste, ça viendra avec. S'il y a une production offensive, on sait que A, il est capable, puis B, ce sera un beau boni, mais c'est de prouver aux entraîneurs qu'il est capable d'être fiable, sur ce troisième, quatrième trio-là.
Ben, c'est un bon point, mais c'est un gars qu'on connaît son potentiel offensif aussi, mais c'est d'être présent à chaque fois qu'il saute sur la glace. L'an dernier, au camp, il y a trop de moments où on le voyait pas. C'est moins en lui peut-être de s'impliquer physiquement, mais il n'aura pas le choix aussi de le faire s'il veut s'accrocher puis garder une place au sein de cette formation-là. C'est de suivre les directives de Martin Saint-Louis, de ce qu'on lui demande. Donc, il ne peut pas non plus arriver au camp et connaître le même résultat que l'an dernier, parce que s'il y a un camp à l'image de celui de l'an dernier, bien, il va rapidement prendre le chemin de Laval.
Ça fait le tour, je pense, pour les postes disponibles. Les jeunes qui doivent se signaler. Postes disponibles, on en a parlé, Kirby Dack au centre du deuxième trio. On fait quoi si l'expérience n'est pas concluante en se disant en plus que Newhook n'est pas semble davantage être un allié qu'un centre? C'est à quel point, quand est-ce que chez les Canadiens, on va se mettre à appuyer sur le bouton urgence, puis on va se mettre sur le téléphone le plus rapidement possible, alors que le marché pour un deuxième centre dans la Ligue nationale présentement, là, c'est les prix sont extrêmement élevés.
Il y a Jeff Gorton qui disait hier en anglais que le CH se retrouve dans une position où ils peuvent être picky, c'est-à-dire choisir, attendre probablement la bonne occasion. Je ne crois pas que c'est une obligation de dénicher le bon deuxième centre demain matin, puis tu ne prends pas non plus la première proposition. Ils vont garder la même formule, ils vont vouloir un joueur qui peut aider maintenant, mais aussi pour du long terme. Sauf si ce joueur-là a pour nom Sidney Crosby, ça serait une autre équation. Mais c'est vrai que le Tricolore a toujours de bons choix au repêchage. Il y a plusieurs espoirs. La journée où Jeff Gorton et Kent Hughes, le jour où ils veulent bouger, ils seront capables probablement de le faire. On a libéré aussi le contrat de Carey Price, donc il y a une plus grande flexibilité. Puis hier, on posait la question à Kent Hughes, mais il y a un autre facteur aussi. Puis il s'appelle Gavin McKenna. Cette saison, plusieurs équipes vont soudainement tomber peut-être en reconstruction. Puis ils vont peut-être vouloir vendre des joueurs plus rapidement. Question d'avoir un plus grand pourcentage de chances de repêcher le prochain phénomène Gavin McKenna. Donc, plutôt que d'attendre au mois de février, ça se pourrait qu'une possibilité de transaction apparaisse dès le mois de novembre s'il y a des équipes qui sentent qu'ils n'ont aucune chance de participer aux séries.
Puis je pense que si la direction voit que Dak et ou Newhook ne font pas le travail, mais que l'équipe est compétitive, que l'équipe est dans le portrait des séries, rendu au mois de novembre, décembre, là, on va peut-être flipper la switch puis se dire, OK, on va le chercher le deuxième centre parce que là, on a une équipe qui vraisemblablement est capable de faire les séries, puis non seulement de faire les séries, mais faire un petit bout de chemin en série avec un deuxième centre décent. Donc, si on ne fait pas le travail, je pense que tu sais, on a le luxe de la patience parce qu'il y a des options. Là, tu sais, il y a Dak, il y a Newhook, Kapanen, même à la limite où on peut lui donner une audition peut-être dans ce rôle-là. Si l'équipe a des bons résultats sans être spectaculaire au niveau du deuxième trio, ben je pense qu'on peut se permettre d'attendre un peu puis voir quelles portes vont s'ouvrir au mois de novembre-décembre. Je pense que Crosby a dit qu'il allait attendre de voir comment la saison allait se dérouler du côté de Pittsburgh. Non, mais on en parle, mais je pense que ça fait aussi partie de l'équation. Peut-être le Canadien veut peut-être pas se menotter en allant chercher un joueur maintenant, puis là, au mois de décembre, la possibilité d'aller chercher un joueur de cette trempe-là soit plus compliqué, peut-être au niveau salarial et tout ça. Fait que je pense qu'on peut se permettre d'attendre, puis rendu au mois de novembre-décembre, selon les performances de l'équipe, là, juger est-ce qu'on a besoin d'un deuxième centre ou pas.
Parce que hier, Crosby a fait une sortie. On a dit que lui, il était à Pittsburgh pour rester là. C'est l'endroit où il veut être. Mais de l'autre côté, il n'y a pas de Brisson qui a ouvert un peu la porte, son agent, pour dire, écoutez, Sidney, il mérite de gagner un peu, gagner pour finir sa carrière sur une bonne note. Ce serait l'acquisition idéale pour ce noyau-là de joueurs. Tu as un Sidney Crosby qui rentre dans ton vestiaire. Ça mérite de surpayer un peu pour aller le chercher si ça arrive un jour. Mais vous vous attendez à quoi comme prix pour Crosby? Qu'au final, il n'y aura pas 40 équipes. 40 équipes, non. Il n'y aura effectivement pas 40 équipes, mais il n'y aura pas 10 équipes qui vont être sur les rangs pour Crosby parce que c'est lui qui va décider où il va aller. La liste risque d'être assez petite, merci. À partir de là, est-ce qu'on se retrouve dans une situation Patrick Kane avec qui a été échangé aux Rangers de New York? Claude Giroux aussi, ça avait fait ça. Ou ça ne coûtera pas si cher que ça parce qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui peuvent faire une offre, là, tout simplement.
Il ne faut pas oublier, Nick, Sidney Crosby contrôle le jeu en grande partie. Si Sidney Crosby décide que par fidélité, par amour, il reste un pingouin de Pittsburgh ad vitam aeternam, bien, ce sera ça. Hier, Sidney Crosby a dit qu'il commençait parfois à être tanné d'en entendre parler, qu'il reste un pingouin de Pittsburgh, mais il faut quand même replacer les choses dans son contexte. Hier, Sidney Crosby distribuait des billets de saison du côté de Pittsburgh. Donc, il est devant une maison. On vient de remettre un abonnement de saison à un fidèle partisan des Pingouins. Il y a quelques journalistes devant lui. Je pense pas que c'est cette journée-là qu'il va dire « Ouais, moi, si les Pingouins ont un mauvais début de saison, je vais parler à Pat Brisson puis je vais explorer mes options. » C'est normal que dans un contexte pareil, il réitère tout son amour pour l'organisation où il a toujours joué. Mais si, c'est vrai, ce sera vraiment intéressant de regarder le départ du côté de Pittsburgh. Puis tu as un bon point, tu sais, Patrick Kane, les Rangers n'avaient pas eu à se déshabiller pour aller chercher Patrick Kane. Je crois que Kyle Dubas n'a pas le choix de respecter Sidney Crosby à un niveau où s'il choisit un jour de l'échanger, bien, il va s'asseoir avec Crosby, puis Crosby va lui identifier l'équipe ou les deux équipes où il désire poursuivre sa carrière. Puis à ce moment-là, bien, ça limite la multitude d'offres possibles. Le Canadien pourrait très bien donner, tu dis, ça pourrait ressembler à quoi? Un choix de premier tour, un espoir de renom. Là, on parle pour parler, mais un choix de premier tour, David Reinbacher, puis peut-être un autre espoir pour Sidney Crosby. Si Reinbacher devient un bon défenseur, puis que les Pingouins misent sur lui pour 12 ans, bien, ça peut quand même aider une relance d'une équipe pour l'après Crosby, l'après Malkin, l'après le temps.
Ça va être à suivre. J'ai l'impression que malheureusement pour lui, Sidney Crosby va en entendre beaucoup parler. D'ailleurs, Kyle Dubas, s'il veut aller chercher Gavin McKenna, il y a quelques atouts dans son équipe qui pourraient partir, tout dépendant si on a une clause de non-échange. Est-ce qu'on peut réussir à échanger le contrat d'Eric Carson? C'est combien d'argent on va retenir là-dessus? T'sais, il va y avoir plusieurs décisions à prendre, mais effectivement, si tu veux... Il faut qu'un moment donné à Pittsburgh, on l'amorce cette reconstruction-là là, parce qu'on la repousse depuis quelques années. Donc, si tu veux
la banque d'espoir est assez mince là, du côté de Pittsburgh. Fait que c'est certain qu'on va vouloir se servir de ça pour la renflouer un peu. Chose est certaine, messieurs, le 22 septembre, match préparatoire entre les Canadiens et les Pingouins, Sidney Crosby ne sera pas au Centre Bell. Je vous l'annonce en grande primeur. Je pense pas que les Pingouins vont l'amener ici pour qu'il se fasse ovationner chaque fois qu'il touche à la patinoire.
Ouais, puis est-ce que Sidney Crosby serait moins un Pingouin de Pittsburgh si un jour il changeait d'équipe? Raymond Bourque est encore lié aux Bruins de Boston jusqu'à tout jamais. Oui, dans les belles histoires, probablement qu'il souhaiterait ne jouer que pour une seule équipe, comme Joe Sakic, comme Steve Yzerman. Mais de voir Crosby qui a peut-être joué son dernier match en série, s'il reste à Pittsburgh, ça fait quand même un pincement au cœur. Puis ça ferait pas de lui une personne moins fidèle si jamais il décidait de partir des Penguins.
C'est un peu comparatif avec Tom Brady chez les Patriots de Nouvelle-Angleterre qui a été échangé avec les Buccaneers. Bon, il faut dire que là-bas, il y a eu pas mal plus de chicanes avec Bill Belichick puis tout ça. Là, je pense que ce ne sera pas le cas du côté de Pittsburgh. Mais surtout que Mike Sullivan est rendu à New York, donc lui aussi n'est plus au même endroit. Mais c'est un peu le même type d'histoire. T'sais, on regarde ce que Brady était capable de faire par la suite à Tampa Bay. Ben, c'est tentant de dire, je pense que Crosby, je pense que les amateurs de hockey méritent de voir Sidney Crosby en série pour encore une, deux, trois années.
Absolument. Si on veut faire un lien encore plus proche, mais Marc-André Fleury reste encore étroitement lié au Penguins de Pittsburgh, même s'il a joué pour les Golden Knights de Vegas, pour les Blackhawks de Chicago, pour le Wild du Minnesota. Donc, Fleury, on le sait, va retourner jouer un match préparatoire, une période contre les Blue Jackets de Columbus. Question de boucler la boucle avec ses amis Crosby, Letang, Malkin. Mais ça n'a pas fait de lui... Les partisans vont autant l'applaudir, même si ça fait plusieurs saisons qu'il n'a pas porté le chandail des Pingouins sur son dos.
Écoute, t'ouvres la porte, Jeff, parle-en, parce que tu y as parlé à Marc-André Fleury, à la suite de cette annonce-là, qu'il va venir jouer un dernier match préparatoire. C'est à la manière Fleury. C'est un gars qui aime tellement ce sport-là.
Oui, il n'était pas capable de dire non.
C'est ça. Mais là, bon, j'imagine que tu as posé la question. Est-ce que finalement la retraite, ça va attendre? Dans son cas,
Non, c'est pas en train de tester ça. Non, non, il riait. Ben, je lui ai demandé qu'est-ce que tu fais si jamais tu bloques 15 C et tu donnes aucun but pour ta fameuse période contre les Blue Jackets. Il dit je reste à la retraite. Fleury ne changera pas d'idée. Mais ce qui revenait toujours dans son discours, c'est je veux pas passer pour un sans-dessin. Il est quand même orgueilleux. Il dit je me suis pas entraîné de l'été, j'ai pas bloqué de tir. Ça lui a pris du temps aussi avant de dire oui à la proposition de Kyle Dubas, même qui a téléphoné d'anciens coéquipiers. Il a parlé avec Maxime Talbot, savoir qu'est-ce qu'il devrait faire exactement, s'il doit y retourner ou pas. Puis ce qu'il chatouillait aussi, c'est que Fleury reste maintenant au Minnesota, va travailler avec Bill Guérin dans un rôle qui reste à déterminer. Puis il ne voulait pas non plus que les gens perçoivent ça comme qu'il tient à tout prix à se retirer comme membre des Penguins de Pittsburgh. Il ne voulait pas manquer de respect pour le Wild du Minnesota. Donc, c'est simplement un clin d'œil, un petit match. Puis il disait aussi comme je veux quand même bien jouer pour ce match-là. Veux quand même réussir à ressembler à un gardien de la Ligue nationale. Puis il nous a quand même rassurés en disant que même s'il ne s'entraîne pas, il n'y a pas de bédaine en ce moment. Il reste quand même dans une condition physique plus respectable que la mienne. On peut simplement dire ça.
Ça part fort l'année, hein? Je pense que...
Ça part fort.
On est rendu avec un gym au bureau, en passant, si tu veux
oui,
aller faire un
tour. Oui, je sais, j'ai même inscrit. Oui, je l'ai ajouté à ma carte. Puis, t'sais, pour juste poursuivre sur Fleury, là, on se parlait... J'avais écrit au sujet de Zeev Beaulieu, un espoir du côté du Wild. Puis j'avais fait une petite entrevue avec Marc-André il y a une dizaine de jours, peut-être. Puis à ce moment-là, Fleury me disait que la réalité d'un retraité le frappait parce que les enfants venaient de recommencer l'école. Donc, il dit l'été, ça va, tu sais, ça bouge, il y a toujours des choses à faire, mais il dit une fois que tu vas reconduire les enfants à l'école, tu reviens à la maison. Et là, il dit les heures sont longues, il dit je savais pas quoi faire. Il parlait avec sa conjointe Véronique, et aucun problème dans le couple, mais il dit à un moment donné, tu es habitué d'être toujours à gauche, à droite. Il peut pas inventer non plus un souper à Saint-Nosée, un mardi soir avec des coéquipiers. Elle ne voyage plus, donc peut-être que ce petit voyage-là du côté de Pittsburgh va lui faire du bien mentalement, question de retrouver l'esprit, la camaraderie des pingouins de Pittsburgh.
Il y a des limites à ce que tu peux faire en écoutant le Price is Right. Là.
Oui.
Tu vous souvenez des journées pédagogiques, malade, le Price is Right, les feux de l'amour, puis...
Moi, il y avait les pierres à feu. Les pierres à feu, c'était une demi-heure. Les schtroumpfs aussi, près de 3 heures l'après-midi. Mais nos enfants n'ont pas ce problème-là. Eux, ils ouvrent les plateformes puis ils vont choisir les bonhommes de leur choix assez rapidement.
As-tu tenté de faire écouter à tes enfants des bonhommes que toi, t'écoutais quand t'étais jeune?
Oui, mais moi, j'ai déjà dit que Zoé, je pourrais lui présenter Benner puis elle l'écouterait pendant les 6 prochaines heures. Donc, si je lui présente les pierres à feu ou les schtroumpfs ou peu importe le choix de cartoon qu'on écoutait à notre époque, je suis pas mal convaincu qu'elle va aimer ça.
Je m'en ai dit, moi, c'est le contraire. À chaque fois que j'essaie de lui présenter quelque chose, il me regarde avec du mépris puis du mépris. Mais ce matin, je suis descendu l'escalier puis je l'ai pogné en train d'écouter. J'ai pogné Zachary en train d'écouter la télévision. Mr. Bean, messieurs. Il écoutait Mr. Bean d'antan.
Avec Guillaume. Là.
Oh oui.
On se souviendra, j'avais visionné Mr. Bean dans un vol vers Edmonton. Là, puis Chaumont était à mes côtés puis il me jugeait.
Comment, un classique, ah oui. Mr. Bean.
Mais je sais pas, là, ton kid, si tu lui mets Franfreluche au lieu de Pat Patrouille, penses-tu qu'il va.
Mais là, Franfreluche, on n'est pas si vieux que ça, là, quand même. Là, je m'essayais avec Picsou.
Ben bon, mais. J'ai écouté ça. Là. Je pense que c'était sur les cassettes, justement, qui étaient enregistrées pour mon père, que là, moi, j'écoutais à la télé.
J'avais essayé avec les Cités d'Or, puis autant Rosalie que Zoé, les deux ont aimé les Cités d'Or.
Je risque de m'essayer. Le documentaire à la fin qui marquait, par contre, là, c'est comme tu avais une histoire avec positive, là, avec ça cherche les cités d'or, puis soudainement, ça parlait de sacrifice humain à la fin dans le documentaire. Il y avait ce petit côté-là qui était un peu plus rock'n'roll qu'on verrait pas, j'ai l'impression. Ça rejoue maintenant les cités d'or comme la version moderne. Je pense pas qu'il y ait un documentaire où on exécute du monde maintenant. Là. Je vous amène sur un autre sujet complètement. Patrick Lane, on en a parlé un petit peu. Vous le placez où dans la formation pour commencer l'année? On a parlé de deuxième trio, mais est-ce que vous le placez sur la première vague d'avantages numériques ou est-ce que c'est Ivan Demidov? Est-ce qu'il mérite d'être sur la première vague d'avantages numériques selon vous avec ce que vous avez vu l'année dernière?
Ben moi, j'irais, si c'était seulement ma décision, ce serait Demidov sur la première vague. Mais peut-être qu'on va y aller d'une façon un peu plus respectueuse, hiérarchique, un peu comme on a fait avec Mike Matheson l'an dernier, commencer la saison avec Laine sur la première vague, puis rendu au mois de novembre-décembre, si on voit que Demidov est très productif sur la deuxième, ben on va peut-être effectuer un changement, mais je me souviens des quelques présences qu'on a données à Demidov sur la première vague l'an dernier en série, puis la rondelle circulait pas mal. Puis tu sais, je sais que Patrick Laine était blessé à ce moment-là, puis il n'était pas au sommet de sa forme, là, mais ce qu'on a vu, c'est du dynamisme que Laine ne peut pas apporter. Laine, son arme principale, c'est son tir. Je pense que ça pourrait donner une belle dimension à la deuxième vague d'avoir vraiment un tireur d'élite qui est à son poste. Tu sais que la force de la deuxième vague, c'est Laine, peut-être un Dobson à la ligne bleue qui se passe la rondelle puis qui tire au but. Puis la première, ben ce serait assez spectaculaire, ce serait assez dynamique justement avec Caulfield, Suzuki, Slav, Demidov et Hudson. Je pense qu'on avait une belle unité en série l'an dernier. Donc, je pense qu'éventuellement, peu importe le moment où on va décider d'envoyer Demidov sur la première vague, je pense que on va se reparler au mois d'avril, puis Demidov va avoir passé la majorité de la saison là, sur la première vague. Je pense que ce serait la décision à prendre là, pour les Canadiens.
Non, je partage l'opinion de Guillaume, mais on parle quand même d'un gars qui en a marqué 15 l'an dernier en avantage numérique, 15 de ses 20 buts. Et si Laine n'a pas une présence sur la première vague en avantage numérique, sa valeur au sein de l'équipe diminue. Mais Demidov, Hudson, Caulfield, Suzuki, Slavkovski, c'est quand même un 5 difficile à déplacer. Slavkovski aura besoin aussi d'être efficace en supériorité numérique. C'en est un que si tu regardes le nombre de minutes jouées en avantage numérique versus sa quantité de points, sa production n'est pas assez élevée. Mais Slavkovski ne remplit pas le même rôle qu'un Patrick Laine en avantage numérique. Donc, ça reste deux joueurs complètement différents. Mais c'est vrai que la deuxième vague, ça pourrait aussi permettre... l'an dernier, Suzuki jouait les 2 minutes. Si tu as une deuxième vague qui est moindrement armée avec Dobson, avec Laine, avec peut-être Newhook, Bolduc et Dak, tu peux
plus partager.
Offrir seulement 1 minute 15 à Nick Suzuki et compagnie, puis donner les 45 secondes suivantes à la deuxième unité.
Oui, parce que ça te prend un tireur d'élite sur ton...
Sur les deux.
Sur une des ailes, mais c'est parce que le problème, c'est que c'est Caulfield ou c'est Laine. Mais c'est, ouais. Un prend le rôle de l'autre, donc... t'es effectivement plus équilibré si t'en envoies un des deux. Puis, comme vous dites, je vois mal le tricolore envoyer Cole Caulfield sur la deuxième
non, puis autant Patrick Laine est un gars d'expérience, son camp va être important. Cette année, ouais. Il est en santé. Il aura besoin aussi d'effacer les derniers matchs avec le CH, le parcours éliminatoire aussi, où Laine n'était pas vraiment impliqué à 5 contre 5, mais probablement qu'il cachait des bobos depuis un bon moment. Donc, s'il peut connaître un bon départ, mais c'est lui qui va probablement dicter sa présence aussi pour l'avantage numérique.
Vous attendez-vous à ce qu'on ait une réponse en partant? Parce que match lundi et mardi contre les Penguins et les Flyers, normalement, tu envoies tes unités, tu envoies ton trio, tu envoies un avantage numérique, l'autre avantage numérique pendant. Donc, ça se pourrait que dès le premier match, on ait une constatation de ça va être quoi le trio ou l'aîné va être utilisé ou ça va plus attendre à la fin du camp?
Il y en a 6 matchs préparatoires, donc les premiers matchs vont servir de test, mais ça se peut.
Je pense que même à l'entraînement, on va voir
les trios. Ouais. Donc, puis hier, je vois Martin Saint-Louis, en entrevue avec Marc Denis de RDS, disait qu'il y a déjà son idée aussi par rapport à l'identité du deuxième centre. Puis il va vouloir, plutôt que d'y aller de 25 expériences, probablement miser sur un cheval puis lui donner le plus de répétitions possible, pour reprendre une expression chère à Martin Saint-Louis.
En terminant, messieurs, je vais parler un petit peu des Sénateurs d'Ottawa qui étaient en ville pour le face-à-face des espoirs. Peut-être deux gars que vous avez retenus. Le premier, bon, du côté des Québécois, Xavier Bourgault, lui veut tailler une place avec Ottawa, droit à un nouveau départ aussi. Dans son cas, il a été échangé des Oilers d'Edmonton. C'est toi, Guillaume, qui a parlé avec Xavier. Ouais. Est-ce que vous le voyez réussir à venir un peu brasser le chiquet? C'est parce que quand on regarde les Sénateurs, là, je regarde les trios puis tout ça, c'est quand même assez béton au niveau de qui va jouer et tout ça. Là, donc, ça s'annonce plus difficile.
Xavier Bourgault en est conscient aussi. Là. Je lui ai posé frontalement la question s'il s'attendait à pouvoir se tailler un poste, si c'était son objectif. Puis il a répondu, je sais que la formation en haut est pas mal béton, là, pas mal faite. Donc, il ne se fait pas de grands espoirs. Mais David Bell, l'entraîneur des Sénateurs de Belleville, disait que c'était le meilleur joueur depuis le début du camp. Il est plus impliqué cette année. Il est passé sous le bistouri. Là, s'il y avait des ennuis l'an dernier à la hanche, au poignet. Donc, pour un joueur offensif comme lui, c'était peut-être pas l'idéal. Il n'a pas eu l'occasion de se faire valoir à 100% dans un rôle offensif. Mais après quelques années quand même, là, c'est un choix de première ronde en 2021. Là. Ça prend du temps pour lui de pas connu de grandes saisons dans la Ligue américaine et tout ça, mais... on sent que cette année, il y a un optimisme, autant du côté de l'entraîneur, autant du côté de Xavier Bourgault, de pouvoir enfin devenir le joueur offensif qu'on voyait en lui là, avec les cataractes de Shawinigan, quand le trio qu'il complétait avec Maverick Bourque, c'était le trio le plus dangereux de la GMQ. C'était comme un peu pas juste pour les autres équipes là, à cette époque-là. On n'a pas vu ça encore de lui, mais il a encore confiance de devenir le joueur offensif au prochain niveau. Puis cette année, ben, je pense que justement, il est sur un contrat d'un an, il est en santé, il a de la confiance. David Bell disait qu'il va lui confier des responsabilités offensives. Il disait « Les joueurs viennent me voir dans mon bureau pour jouer avec Xavier parce qu'ils savent que c'est un bon fabricant de jeu, qu'il a une belle vision et tout ça. » Donc pour lui, c'est pas la dernière chance, mais disons que faudrait que ça commence à...
Ça déclic, là.
C'est ça. Ouais, le déclic, il faut qu'il se fasse. Puis ça, tous les éléments semblent être réunis cette année pour que ça se fasse.
C'est sa deuxième saison aussi. Ça sera sa deuxième saison avec les Sénateurs de Belleville. Juste ça, ça peut être une motivation, sortir de Belleville, qui est quand même pas Rome, nos points de vue beauté de ville, architecturale aussi. Mais je regarde, tu sais, autant les Sens ont dit c'est coulé dans le béton à position de centre dans la Ligue nationale, je suis d'accord, là. Tim Stützle, Dylan Cousin, Shane Pinto, Lars Eller. Mais après, il n'y a pas des tonnes de joueurs pour venir obtenir des rappels. Donc, pour un Xavier Bourgault, c'est de se positionner, d'être peut-être un choix pour un rappel. Il y a Stephen Halliday qui est au camp des recrues. Il y a Arthur Kaliev qui a joué dans la Ligue nationale, mais que sa carrière ne décolle pas.
Quel poisson, ouais.
Ouais, il y a Jan Jenik, il y a un Tchèque, Tyler Boucher, qui est un haut choix repêchage, mais dont la carrière aussi tourne en rond. Donc, Oscar Peterson, pas le pianiste, mais le Suédois. Donc, il y a pas 25 options point de vue attaque au niveau des espoirs.
Il a vraiment mis la table pour sa joke pendant
30 minutes.
Secondes en nommant des noms dont on n'a jamais entendu parler. Là,
il est tout rouge, là, Tom Makiri.
Puis, il y a Carter. Si on parle d'espoir des Sens, le gros nom, le principal espoir, c'est Carter Yakemchuk, défenseur qui va fêter ses 20 ans à la fin du mois de septembre. Donc, lui, peu importe, devient pro cette saison, Belleville ou Ottawa. À la ligne bleue, c'est quand même... là aussi, on parle de 7 défenseurs avec des contrats de la Ligue nationale, mais Yakemchuk est très talentueux. L'an dernier, Steve Steos, il a réfléchi longtemps avant de le retrancher pour qu'il retourne.
Il y avait un super camp.
Oui, il y avait un gros camp. Donc, il est retourné finalement pour une autre saison avec les Hitmen de Calgary où on lui a demandé de travailler son jeu défensif, mais malgré tout, il a eu de bonnes statistiques aussi offensivement. C'est un gars qui a un tir très puissant, gros défenseur droitier, 6 pieds 3, 6 pieds 4. Tous les atouts, sauf celle de donner une entrevue palpitante, mais ça, c'est pas ça son principal mandat. Yakemchuk, c'en est un qu'on verra cette saison du côté d'Ottawa.
Oui, parce que quand Yakemchuk a été repêché septième, il a devancé des gars qu'on parle beaucoup.
Zeev Boyan, Zane Parekh, Zane Dickinson.
Disons que ces trois joueurs-là l'ont dépassé dans l'organigramme au niveau de l'évaluation qu'on fait parce qu'ils sont hyper offensifs. Tandis que Yakemchuk, soyons francs, à Calgary, saison plus décevante. Comme tu dis, oui, il s'est concentré sur son jeu défensif, mais je pense que beaucoup s'attendaient à davantage de lui, donc c'est à lui là, maintenant.
Mais c'en est un autre aussi, pros. Comme Zane Parekh, qui n'était pas assez bon pour l'équipe canadienne au championnat du monde.
Oui.
Yakemchuk, Zane Parekh n'aurait pas aidé la formation canadienne l'an dernier du côté d'Ottawa. Mais ça l'a piqué aussi. Je l'avais rencontré là, du côté de Washington, Carter Yakemchuk, pour une entrevue. Donc, il disait qu'il s'en est servi de motivation. Comme Parekh avec les Flames de Calgary.
Parce qu'il y en a une couple qui ont été piquées. Il ne manquera pas de motivation.
Il y a eu, disons, des décisions un peu étonnantes l'an dernier.
On n'a pas fini d'en parler. Les Sénateurs vont affronter les Canadiens le 30 septembre. Donc, on va s'approcher à ce moment-là de la fin du camp d'entraînement. On va peut-être avoir les équipes un peu plus complètes. Vous regardez les Sénateurs ce matin, vous regardez les Canadiens ce matin, la formation prévue, ces deux équipes qui ont terminé quand même collées au classement l'année dernière. Vous favorisez laquelle? Qui va terminer une devant l'autre? Je vais vous demander présentement là, dans ce que vous regardez. Parce que je trouve qu'il y a une équipe défensivement qui est vraiment meilleure que l'autre, mais offensivement, j'aime un peu plus, disons-le, la ligne de centre des Sénateurs.
Mm-hmm. Moi, je pense que tu flippes un 25 sous. Ça va dépendre d'un paquet de facteurs.
J'allais donner l'argument de la ligne de centre. On juge souvent une équipe par la qualité de ses centres du côté des Sénateurs. Honnêtement, avec Lars Eller, l'expérience qu'il a, les responsabilités défensives qu'il peut remplir, je pense que c'est très, très encourageant. Dylan Cousins avait fini la saison en force après la transaction qu'il l'a envoyé à Ottawa.
Shane Pinto va être là toute l'année aussi, là, ça devrait aider, là.
Ouais, techniquement, si tout se passe bien. mais du côté, c'est sûr, défensivement, le Canadien commence à avoir une brigade défensive très, très intéressante. Là, hier, on en a parlé avec plusieurs intervenants, là, des Dobson, Mike Matheson, on commence à comme, un peu lui chercher un rôle, mais on s'entend que c'est le défenseur le plus utilisé de cette équipe-là l'an dernier. Il était très, très efficace. C'est ça, on flippe un 25 sous. Est-ce que le gardien Linus Ullmark va être en mesure de continuer sur sa lancée? Les Sénateurs, ça faisait quelques années là, qu'on cherchait un gardien capable de faire les arrêts. Ullmark l'a fait l'an dernier. Je pense que c'est un safe bet de ce côté-là devant le filet. Je sais pas.
Ça risque d'être une chaude lutte entre les deux équipes. Là, ça va peut-être se déterminer.
Ça va être bon pour la rivalité, en tout cas.
Mm-hmm. Ouais, puis on parle qu'ils ont peut-être une moins bonne défensive que celle du CH, mais Jake Sanderson est quand même peut-être un gars qui pourrait être dans une discussion pour le trophée Norris, un joueur. C'est un bon défenseur rapide. Si Jake Sanderson joue à Toronto, on entendrait parler à tous les jours. Il est dans un plus petit marché à Ottawa, passe plus dans l'ombre. Mais Sanderson, Chabot, Nick Jensen, Artem Zub, Tyler Cleven. Donc, le top 5 est quand même intéressant du côté des Sens. Puis Tim Stutzla, c'est un autre bon moteur offensif. Puis tu as Brady Tkachuk. Autant le Canadien a une très bonne offensive, très bonne équipe, mais il n'y a pas un Brady Tkachuk au sein du CH. Donc, c'est peut-être petit c'est avantage dommage, hein? Du côté d'Ottawa.
On a rarement l'occasion de mettre la main sur un joueur comme Tkachuk.
Mais non.
Ça se bat au repêchage, ça, je crois.
Quand on parle de camp de développement, des fois, on dit un tournoi des recrues, ça ne veut rien dire. Mais le tournoi des recrues qui se déroulait du côté de Laval, le match entre les Sénateurs et le CH, la domination de Brady Tkachuk contre Jesperi Kotkaniemi, même si Jesperi Kotkaniemi était plus jeune de quelques mois, ce moment-là, tu pouvais voir que les Sénateurs avaient parié sur le bon joueur au repêchage et que malheureusement, du côté de Montréal, il y avait eu une obsession pour repêcher un joueur de centre, mais c'était pas le bon en Jesperi Kotkaniemi.
Non, effectivement. Les gars, merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. On va suivre, on va pouvoir vous lire sur le site de lanage.com pour tout ce qui va se passer durant le camp d'entraînement. Prochain balado dans deux semaines. Écoutez, ça va être un balado de lancement de la saison, donc vers le 1er octobre. Là, je pense qu'on va sortir ça. Logiquement, ça devrait être disponible à ce moment-là. Donc, les chers auditeurs, ben, abonnez-vous, suivez-nous pour être certain de ne pas manquer tout ça. Mais à moins, on ne sait jamais, il peut se passer quelque chose. Puis finalement, peut-être qu'on va se parler la semaine prochaine. On verra bien à ce moment-là. GF, Guillaume, merci d'avoir été avec moi ce matin au balado.
Ça fait plaisir.
À bientôt.
Et chers auditeurs, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute et on se reparle très bientôt.